21. Il assiste au dernier moment d'Auguste, à lettre d'Auguste à Tibère. Quelque temps après, les consuls arrêtèrent qu'ils partageraient avec Auguste l'administration des provinces et le soin de faire le recensement du peuple. Il ferma le lustre et partit pour l'Illyrie. Rappelé sur le champ, il trouva Auguste dans une extrême défaillance, mais respirant encore, et resta seul, en conférence secrète avec lui pendant un jour entier. Je sais qu'on croit généralement qu'après cet entretien intime, quand Tibère fut sorti, les gens de service entendirent Auguste s'écrier « Ah, que je plains le peuple romain de tomber sous des mâchoires si lentes !» Je n'ignore pas non plus que, suivant quelques historiens, Auguste blâmait publiquement et sans rien dissimuler son caractère farouche, au point qu'il interrompait quelquefois une conversation libre et gaie dès qu'il paraissait, que les seules instances de Livie lui firent adopter Tibère, ou que son ambition même l'y détermina, afin qu'un jour un tel successeur le fît d'autant plus regretter. Mais on ne pourra jamais me persuader que, dans une affaire de cette importance, le plus réfléchi et le plus politique des princes ait rien fait légèrement. Je crois qu'après avoir mis dans la balance les vices et les qualités de Tibère, il trouva que celle-ci l'emportait. Cette opinion me paraît d'autant plus probable qu'en pleine assemblée, Auguste jura qu'il adoptait Tibère dans l'intérêt de la République, et que dans ses lettres, il le regarde comme un général très habile et comme l'unique appui du peuple romain. Quelques passages en fourniront les preuves. Adieu, mon charmant Tibère. Que tout vous réussisse. Vous commandez pour moi, sans négliger les muses. Et je le jure par ma fortune. Oui, vous êtes le plus vaillant et le plus illustre des généraux. Adieu. Ailleurs, que j'approuve la disposition de votre camp d'été. Pour moi, mon cher Tibère, je pense qu'on ne pouvait se conduire plus sagement que vous, au milieu de tant de circonstances difficiles, et avec des soldats si nonchalants. Tous vos compagnons d'armes déclarent que ce vers est applicable. La prudence d'un seul a rétabli l'état. Ailleurs encore, qu'il me survienne une affaire qui exige de mûres réflexions. Soit que j'aie quelque grand sujet d'humeur, je le jure, je regrette mon cher Tibère, et ces deux vers d'Homère reviennent à ma pensée. Je pourrais, sur les pas de ce guide si sage, même au travers des feux me frayer un passage. Ou encore, j'en atteste les dieux. Lorsque j'entends dire ou que je lis que l'excès de travail vous affaiblit, je frissonne de tout mon corps. Ménagez-vous, je vous en supplie. Si vous tombiez malade, votre mère et moi nous expirerions de douleur, et le peuple romain risquerait de perdre son ascendant suprême. Ma santé n'est rien si la vôtre n'est pas bonne. Je prie les dieux qu'ils vous conservent à nos vœux, qu'ils vous maintiennent toujours en bon état, s'ils ne se lassent pas de protéger le peuple romain. 22. Ouverture du testament d'Auguste. Il ne rendit public la mort d'Auguste qu'après le meurtre du jeune Agrippa. Ce fut un tribun militaire préposé à la garde de ce prince qui lui ôta la vie, après lui avoir donné lecture de l'ordre qu'il en avait reçu. On ne sait si Auguste avait signé cet ordre en mourant, pour écarter tout ce qui pourrait causer des troubles après lui, ou si Livie l'avait dicté, au nom d'Auguste, de l'aveu ou à l'insu de Tibère. Quand le tribun lui annonça qu'il avait accompli son mandat, Tibère répondit qu'il n'avait rien ordonné, et que l'exécuteur de cet ordre en rendrait compte au Sénat. Il ne voulait pour le moment que se soustraire à l'indignation publique, car il laissa bientôt tomber cette affaire dans l'oubli. 23. Ouverture du testament d'Auguste, suite. En vertu de sa puissance tribunicienne, il convoqua le Sénat, commença une allocution, puis, tout à coup, il s'arrêta, comme étouffé par ses sanglots, et succombant à sa douleur. Il aurait désiré, disait-il, perdre la vie avec la parole. Et il donna son discours à son fils Drusus, pour qu'il en fît la lecture. On apporta ensuite le testament d'Auguste. Parmi les signataires, il n'admit à le reconnaître que des sénateurs, tandis que les autres n'en vérifièrent l'authenticité qu'en dehors de la curie. Ce fut un affranchi qui le lut. Il commençait ainsi. « Puisqu'un sort funeste m'a enlevé mes fils Gaius et Lucius, je nomme Tibère César, mon héritier, pour une moitié plus un sixième. » Cette rédaction fit soupçonner davantage encore qu'Auguste l'avait instituée, plutôt par nécessité que par choix, puisqu'il n'avait pu s'empêcher de le dire dans son préambule. 24. Tibère accepte l'Empire après l'avoir refusé longtemps. Quoiqu'il n'eût hésité ni à s'emparer de la puissance, ni à l'exercer, quoiqu'il eût pris une garde, et par conséquent la force et les dehors de la souveraineté, il la refusa longtemps avec une insigne impudence. Tantôt, répondant à ses amis qui lui conseillaient d'accepter, « Vous ne savez pas quel monstre c'est que l'Empire !» Tantôt, tenant en suspense, par ses réponses ambiguës et une hésitation astucieuse, le Sénat qui le suppliait et qui s'était jeté à ses genoux. Quelques personnes perdirent patience, et l'une d'elles s'écria dans la foule « Qu'il accepte ou se désiste !» Un autre lui dit en face « Ordinairement, ceux qui promettent sont lents à tenir leurs promesses, mais vous, vous êtes longs à promettre ce que vous avez déjà fait. » Enfin, il accepta l'Empire, comme malgré lui, en déplorant la misérable et lourde servitude qu'on lui imposait, et en exprimant l'espoir qu'il s'en délivrerait un jour. Ses paroles expresses furent « Jusqu'à ce que j'arrive au temps où il pourra vous paraître juste d'accorder quelque temps à ma vieillesse. » 25. Trouble qui s'élève au commencement de son règne. Il avait des raisons pour hésiter. Des dangers le menaçaient de toutes parts, et il disait souvent qu'il tenait le loup par les oreilles. Un esclave d'Agrippa, nommé Clémence, avait rassemblé une troupe assez considérable pour venger son maître, et un noble personnage, Lucius Cribonius Libo, préparait secrètement une révolution. Les légions s'étaient soulevées en Illyrie et en Germanie. Elles étalaient beaucoup de prétentions extraordinaires. Surtout, elles voulaient avoir la même paix que les soldats prétoriens. L'armée de Germanie refusait de reconnaître un prince qu'elle n'avait point élu, et pressait vivement Germanicus, qui la commandait, de s'emparer du trône. Mais il s'en défendit avec fermeté. Tibère, craignant surtout ce danger, demanda pour lui les fonctions qu'il plairait au Sénat de lui assigner. Nul n'étant capable de porter ce fardeau tout entier, et ne pouvant se passer du secours d'un autre ou de plusieurs. Il feignit aussi d'être malade, afin que Germanicus attendît plus patiemment, ou une succession prochaine, ou du moins le partage de la souveraine puissance. Les séditions apaisées, il s'empara de Clémence par trahison, et l'assujettit à son pouvoir. Quant à Libo, ne voulant pas commencer son règne par des rigueurs, ce ne fut que la seconde année qu'il l'accusa dans le Sénat, et jusque-là, il se tint en garde contre lui. Un jour qu'ils sacrifiaient ensemble, avec les pontifes, au lieu du couteau ordinaire, il lui fit donner un couteau de plomb. Une autre fois, Libo, lui ayant demandé un entretien secret, il ne le lui accorda qu'en présence de son fils Drusus, et sous prétexte de s'appuyer sur lui pendant leur promenade, il contint sa main droite jusqu'à la fin de la conversation. 26. Sa fausse modestie. Affranchi de crainte, il se conduisit d'abord avec beaucoup de modération, et presque comme un particulier. Parmi beaucoup d'honneurs éclatants qu'on lui offrait, il n'accepta que les moindres et en petit nombre. La célébration du jour de sa naissance était rencontrée avec les jeux du cirque. Il ne permit qu'on y ajoutât pour lui qu'un char à deux chevaux. Il ne voulut ni temple, ni flamine, ni prêtre. Il défendit qu'on lui dressât des statues ou qu'on exposât ses images sans sa permission, et encore à condition qu'elles ne seraient point placées parmi les effigies des dieux et ne serviraient qu'à orner les édifices. Il s'opposa à ce qu'on jurât par ses actes et ne souffrit pas que le mois de septembre fût appelé Tiberius ni le mois d'octobre Livius. Il refusa le prénom d'impérator et le surnom de père de la patrie, ainsi que la couronne civique dont on voulait décorer le vestibule de son palais. Il n'ajouta le nom d'Auguste, qui lui appartenait par héritage, que dans ses lettres au roi et au souverain. Il n'agréa que trois consulats, l'un pendant peu de jours, l'autre pendant 3 mois, et le troisième en son absence, jusqu'aux ides de mai. 27. Son aversion pour la flatterie. Il avait une telle aversion pour la flatterie qui ne permit jamais à aucun sénateur d'accompagner sa litière, soit pour lui faire sa cour, soit pour lui parler d'affaires. Un personnage consulaire lui demandait pardon et voulait embrasser ses genoux. Tibère se retira si brusquement qu'il tomba à la renverse. Parlait-on de lui d'une manière trop flatteuse? Dans une conversation ou dans un discours soutenu, il n'hésita point à interrompre, à reprendre, et à changer aussitôt l'expression. Quelqu'un lui donna le nom de maître. Il lui signifia ne plus lui faire désormais cet affront. Un autre appela ses occupations sacrées. Il le reprit et fit mettre en place occupation laborieuse. Un troisième disait qu'il s'était présenté au Sénat par son ordre. Il fit substituer par son conseil. 28. Sa longanimité. Insensible aux propos injurieux, aux mauvais bruits et aux vers diffamatoires répandus contre lui et contre les siens, il disait souvent que, dans un état libre, la langue et l'esprit devaient être libres. Le Sénat demandait un jour qu'on informât sur cette espèce de crime et qu'on poursuivît les coupables. « Nous n'avons pas assez de loisirs, répondit-il, pour nous embarrasser d'un plus grand nombre d'affaires. Si vous ouvrez cette porte, vous ne nous laisserez plus le temps de faire autre chose. Et sous ce prétexte, toutes les inimitiés particulières nous seront déférées. » On a retenu encore de lui ces paroles pleines de modération. « Si quelqu'un dit du mal de toi, je tâcherai de lui expliquer mes paroles et mes actions. S'il persiste, je le haïrai à mon tour. » 29. Sa conduite à l'égard des sénateurs. Cette conduite était d'autant plus remarquable que, par ses déférences et ses respects envers chacun et envers tous, il avait lui-même presque dépassé les bornes de la politesse. Un jour que dans le Sénat, il avait contredit Quintus Aterius, « Pardonnez-moi, je vous prie, lui dit-il, si comme sénateur j'ai combattu votre avis avec un peu trop de liberté. » Puis, s'adressant à tous, il ajouta « Je l'ai dit souvent, et je le répète, père conscrit, un prince utile et bon, que vous avez investi d'un pouvoir aussi grand et aussi peu limité, doit être au service du Sénat, souvent de tous les citoyens, et la plupart du temps, de chacun en particulier. Je ne me repens pas de l'avoir dit. J'ai trouvé, et je trouve encore en vous, des maîtres pleins d'équité et de bienveillance. » 30. Il consulte les sénateurs sur toutes les affaires. Il établit une apparence de liberté en conservant au Sénat et aux magistrats leur ancienne majesté et leur ancienne puissance. Il n'eut point d'affaires, petite ou grande, publique ou particulière, dont il ne rendit compte au Sénat. Il le consultait sur les impôts, sur les monopoles, sur les édifices à construire ou à réparer, sur les levées de troupes et les congés des soldats, sur l'état des légions et des corps auxiliaires, sur la prolongation des commandements, sur la conduite des guerres extraordinaires, sur le fond et sur la forme des réponses qu'il fallait faire aux lettres des rois. Il obligea un commandant de cavalerie, accusé de violence et de rapine, de se justifier devant le Sénat. Jamais il n'y entra que seul. Un jour, qu'on l'y porta malade dans sa litière, il fit retirer sa suite.